Bonjour Gérard Crozat.
Bonjour.
Et bonjour Yves Noyer.
Bonjour à vous.
Alors Gérard Crozat, vous êtes délégué pour l'œcuménisme dans notre diocèse et vous venez avec Yves Noyer, que nous avons la joie d'accueillir ici dans le studio de Tarbes. Yves Noyer, vous êtes pasteur retraité. Vous venez ici à l'occasion d'une conférence que vous donnerez ce soir donc au Temple protestant à 20h30. Conférence sur Dietrich Bonhoeffer. Alors Dietrich Bonhoeffer, c'est un jeune pasteur allemand qui va mener un combat contre Hitler et contre le nazisme. Il ira même jusqu'à mourir pour son combat. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Un chrétien contre Hitler et le régime nazi ». Dietrich Bonhoeffer, Dieu dans un monde sans Dieu. Alors avant d'aborder peut-être ce thème sur Dietrich Bonhoeffer, est-ce que vous pouvez, Yves Noyer, vous présenter ?
Alors j'ai été pasteur de 1980 à 2018 dans différents lieux de la région Ouest puis de la région Nord-Normandie. J'ai terminé avec 4 années d'animateur théologique et c'est un peu à cette occasion-là, schématiquement, que j'ai décidé de mettre en route d'abord un mémoire de master recherche sur Dietrich Bonhoeffer et puis, à la suite de cette soutenance, d'écrire un livre sur Dietrich Bonhoeffer, alors qui donne un peu la perspective ouverte, si vous voulez, alors que dans le mémoire de maîtrise, j'ai fait le commentaire de trois livres de Bonhoeffer.
Gérard Crozat, c'était important pour vous de faire venir, dans le cadre de l'œcuménisme, Yves Noyer ?
Ah, oui, c'est important de le faire venir lui et surtout qu'il puisse nous faire découvrir un peu plus qui est Dietrich Bonhoeffer. Et c'est vrai que le 8 mai a été couvert surtout par la nomination de notre pape, mais c'est aussi l'anniversaire de la libération. Et je crois que la libération n'a pas été faite que par les libérateurs, elle a été faite aussi par tous ceux qui, avant, ont combattu. Ils se sont battus, les résistants, et la résistance elle a eu lieu partout, y compris dans les camps. Et je crois que c'est une occasion privilégiée de pouvoir aujourd'hui prendre exemple un peu de Dietrich Bonhoeffer pour voir quelle résistance on doit opérer dans le monde d'aujourd'hui.
Justement, Yves Noyer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce jeune pasteur allemand ?
Ce qui m'a intéressé chez cet homme, c'est une forme de cohérence entre la pensée théologique et l'action. Et de ce fait, c'est un des éléments que j'aime répéter, même sur un sujet différent comme celui de ce soir, c'est-à-dire l'engagement œcuménique de Bonhoeffer. Mais j'aime bien dire qu'il y a une cohérence qui est intéressante parce que ça veut dire que cet être humain est un être uni et je trouve que c'est un peu intéressant dans la perspective de l'œcuménisme et de la marche vers l'unité. Alors, par ailleurs, c'est vrai que c'est un homme qui a des fulgurances, y compris dans Résistance et Soumission. Dire Dieu dans un monde sans Dieu, c'est issu du livre Lettre de prison ou Résistance et Soumission, comme on veut. Et en effet, nous sommes confrontés à un monde qui, au minimum, ne voit plus d'intérêt à croire en Dieu. Hein. Et notre travail de chrétien, c'est effectivement d'aider les gens à découvrir que ce n'est pas ce mécanisme-là qui est important, c'est-à-dire la religion, le fait de se relier à Dieu, en tout cas dans ce sens-là, mais que c'est au contraire accueillir un Dieu qui vient se révéler, qui vient se faire connaître en étant homme en Jésus de Nazareth. Et ça me semble un enjeu primordial parce que justement, on est confronté à des gens qui se prétendent chrétiens et qui en fait détourne le christianisme. Alors, je pourrais en prendre un exemple à l'ouest et un exemple à l'est, même si je ne sais pas si je m'oriente bien avec les deux gestes en question.
Justement, en ce qui concerne Dietrich Bonhoeffer, lui, il a décidé d'agir, il a décidé d'être en action, il ira même jusqu'à mourir pour ses idées et pour avoir parlé. À quel moment, vraiment, il y a eu cet électrochoc où il a réalisé que le nazisme et Hitler prenaient beaucoup de place?
Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Dietrich Bonhoeffer réagit à cette nomination le 2 février 1933 sur un sujet éminemment central, c'est-à-dire l'évolution de la notion de Führer dans la jeune génération. C'est une conférence radiodiffusée. Alors là aussi, je souris parce que c'est une émission qui est interrompue, vraisemblablement parce qu'il avait été trop long. Et c'est juste au moment où il dit ce jeu de mots en allemand, le Führer peut devenir un Verführer, le conducteur peut devenir un séducteur. Et donc les auditeurs chrétiens qui entendent ça peuvent interpréter du côté de Satan, enfin du côté du mal, du côté du diviseur, etc., etc.
Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant justement cette prise de conscience de Dietrich Bonhoeffer?
Alors, je crois qu'on peut revenir sur un point précis. J'ai vu dans La Croix, le périodique, pas le journal quotidien, la mention d'un propos qu'il a tenu en 1932, c'est-à-dire au moment où la montée vers le pouvoir commence à devenir importante, si vous voulez. Et ce propos, me semble-t-il, montre... Alors, ça nous aide à comprendre que Bonhoeffer est d'un milieu extrêmement renseigné, extrêmement au courant de la société allemande de cette époque-là, qu'elle est consciente et qu'elle est un lieu de partage, un lieu de réflexion en commun, etc. Pour vous donner un point largement plus après, en 1945, deux frères, Dietrich et Klaus, si ma mémoire est bonne, deux beaux-frères, Hans von Danay et Rüdiger Schleicher, sont assassinés par le régime nazi. Ça aide à comprendre qu'il n'y a pas que Dietrich dans l'histoire, il y a une famille. Alors on respecte les parents parce que l'une est... et de l'aristocratie, et l'autre est un psychiatre renommé à l'époque, et donc, bon, on ne touche pas à ces gens-là. Mais les deux autres, et les deux pièces rapportées, comme on dit habituellement, sont aussi exécutées pratiquement le même jour, si ma mémoire est bonne, donc le 9 avril 1945. Ce qui est intéressant aussi, c'est de repérer dans l'année 1933, Dietrich réagit sur deux autres points. Un également central, l'Église face à la question juive, où il dit « la question juive n'est pas une question raciale, mais une question religieuse ». C'est-à-dire qu'il remet l'essentiel au centre et donc il donne un camouflet, en quelque sorte, à l'idéologie nazie qui voulait en faire une question raciale. Hein, ça, c'est très important. Et puis, il recommence, si j'ose dire, en août 1933, donc 6 mois après, hein. Il s'interroge sur la volonté du régime nazi d'imposer à l'Église ce qu'on appelle le paragrapharien, c'est-à-dire le fait d'exclure de la fonction publique des chrétiens qui sont d'origine non-arienne, pour le dire clairement, d'origine juive. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que je pense que Bonhoeffer est non seulement un théologien, et il résonne tout le temps en tant que théologien, mais c'est un théologien qui voit l'insertion dans la société. Et je trouve que même par rapport à l'Église confessante, c'est important de comprendre cette différence, à savoir les ténors de l'Église confessante veulent préserver la liberté de l'Église. Bonhoeffer veut honorer la responsabilité de l'Église face à toute l'humanité. Et ça, je trouve que c'est bien plus large.
Merci Yves Noyer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, peut-être, ou nous dire, qu'est-ce qu'une Église confessante, Yves Noyer?
L'Église confessante, c'est cette fraction de l'Église protestante d'Allemagne qui reste fidèle à l'institution de l'Église par le Christ, et en particulier au fait qu'il y a un lien très fort entre le judaïsme et le christianisme. C'est cette fraction de l'Église qui demeure opposée à la mise en tutelle de l'Église protestante par les chrétiens allemands, pardon, qui voudraient en faire un christianisme positif. Et alors, dans positif, on inverse totalement le sens. Christianisme positif, c'est le christianisme qui est débarrassé de ses racines juives. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, un peu compliqué à vivre dans l'époque en question.
Ça nous renvoie à nos églises aujourd'hui, parce qu'on a la même chose, c'est-à-dire prendre conscience que l'Église est là pour nous inviter à regarder l'homme dans toute sa dignité, parce qu'il est à l'image de Dieu, que ce n'est pas simplement une structure, mais l'Église, oui. C'est elle qui va nous aider à prendre position au nom de la dignité. Et parce que justement, je ne peux pas me satisfaire que certains soient dans la situation où ils sont, et cela c'est parce que je me dis chrétien. Et je crois que c'est important. C'est Emmanuel Mounier qui disait je n'existe que dans la mesure où j'existe pour l'autre. À la limite, être, c'est aimer. C'est ça. Et on vit dans un monde, moi je vais vous faire part d'une souffrance, mais c'est qu'on ne se regarde plus. Quoi. Enfin, tout le monde regarde son portable, on ne regarde que ça. Alors moi je plaisante toujours dans les supermarchés, bon ça fait rire les caissières encore tout à l'heure, mais rions quoi, enfin essayons de rions ou papotons, mais qu'il y ait une relation interpersonnelle. Et je crois que nous devons tous sortir de nos lieux de culte, quels qu'ils soient, en ayant pour dehors un regard différent sur le monde. Si c'est pour reprendre le... Ça ne sert à rien de dire « Dieu, je t'aime » à l'église ou au temple. Ou si quand je ressors, je suis un individualiste, un sale individualiste.
Et ce qui me semble aussi important, c'est effectivement de repérer dans cette histoire-là le fait que on était confronté à la prise en considération, si je puis dire, de sous-hommes. Hein, en allemand, des Untermenschen. Alors, en faisaient partie les Juifs, les Tziganes, les handicapés mentaux, les homosexuels, etc. etc. Et nous ne pouvons que réagir, en tout cas les chrétiens conscients, nous ne pouvons réagir qu'en disant « mais il n'y a pas de sous-hommes ». Hein, puisque, en effet, vous l'avez dit vous-même, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Pardon, mais je vais le dire de manière très, très triviale, on a de la gueule. Et de ce fait-là, je crois que ce que vous disiez sur la présence au monde, c'est d'articuler aussi de manière fondamentale l'amour du prochain et l'espérance. C'est-à-dire que celui que je vois là, alors qu'il me semble être un ennemi, il faut que j'arrive à le voir comme un ami et un frère en humanité. Et ça, je crois que c'est très important. Et je crois que le témoignage de ces hommes de la résistance allemande, c'est souvent au nom justement de cette réalité, mais de cette réalité dynamique et non pas sombre, qui réagissent face à l'obscurité.
Alors justement, c'est cette dignité, cette humanité que Dietrich Bonhoeffer a voulu prôner. Et malheureusement, ça n'a pas plu à tout le monde.
Non, et c'est intéressant de remarquer toujours qu'il y a eu 3 sanctions qui ont été faites par le régime nazi. Il a été interdit d'enseignement, interdit de résidence à Berlin et enfin interdit de publication. Ce qui fait qu'on lui coupait totalement les cordons de la bourse. La famille était relativement riche, ce qui fait qu'il a pu tenir jusqu'en 1945.
L'engagement de sa foi chrétienne, ça lui a demandé un engagement total. Alors face à cette montée du nazisme, Dietrich Bonhoeffer a dû créer un séminaire en Pologne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, c'est à l'instigation des responsables de l'Église confessante qu'il a été appelé à diriger un séminaire confessionnel, ou de l'Église confessante, comme on veut. Ce séminaire, c'était à la fois la formation au plan spirituel et théologique, mais également au plan de la vie communautaire. C'est du reste cette expérience-là, en commun, qui lui a permis d'écrire ce qu'on appelle de la vie communautaire, c'est-à-dire une réflexion pour nous aider aussi à comprendre quelque chose de très important, le fait que nous sommes une communauté pneumatique ou une communauté spirituelle nous permet de vivre un amour spirituel, je vais le dire plus que pneumatique, c'est pas terrible. Et cet amour spirituel nous permet, me semble-t-il, ça c'est un commentaire que je fais, de rectifier un psychisme qui est abîmé. Et du coup, nous pouvons être en relation réelle les uns avec les autres, inspirés par cet amour spirituel. Et du coup, la vie communautaire est bien plus saine que si je me mettais en relation avec quelqu'un pour l'utiliser, pour le manipuler, etc. Ça, c'est le psychisme, si j'ose dire, le psychisme esquinté. Et du coup, nous pouvons acquérir une forme de psychologie saine, si j'ose dire. Et ça, c'est quand même superbe, quoi. C'est-à-dire que l'être humain peut être restauré par cette présence de Dieu qui nous anime, qui nous fait vivre, qui nous fait grandir et nous articule les uns avec les autres. Et ça aussi, c'est précieux.
Alors justement, c'est cette foi qui a animé Dietrich Bonhoeffer qui a fait qu'il n'a pas pu se taire face à la montée du nazisme. Quelle est la suite, Yves ?
Alors la suite, c'est à la suite du démarrage de la Seconde Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer, qui a été invité par un de ses beaux-frères, donc Hans von Donaï, a rentré dans les services secrets de la Wehrmacht, de l'armée. Et il attend, parce que c'est un homme de conviction, qui élabore lentement sa conviction, il a été amené à prendre une décision au moment de la chute, de la défaite de la France. Alors c'est très intéressant parce que ça montre qu'il réagit, si j'ose dire, à rebrousse-poil finalement. Il réagit contre l'événement. Et donc il rentre dans les services secrets avec une mission qui lui est confiée par les dirigeants des services, l'amiral Canaris et le colonel Oster. Il est invité à faire quelque chose de complètement fou, précisément parce qu'il a été engagé au niveau œcuménique. Il peut dialoguer avec un lord anglais, l'évêque de Chichester en Angleterre, et avec le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises en formation, le pasteur Wissertoft, pour renseigner par le biais de l'évêque d'une part, par le biais du pasteur d'autre part, les Anglais et les Américains sur la nature du régime nazi, sur la volonté de dictature et de mainmise sur le territoire européen. Et finalement, on sait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un homme comme Churchill dira qu'il avait été renseigné, mais que l'urgence, c'était d'abord de faire la guerre et de la gagner, et pas de s'occuper de la résistance allemande, quoi. Mais c'est très intéressant parce que, alors, juridiquement, il m'arrive de savoir que j'ai fait des études de droit. Juridiquement, je dis ce qu'ils ont fait et ce que lui a fait en particulier, c'est un crime de haute trahison. C'est passible de la peine de mort en temps de guerre. Et donc, nécessairement, parce qu'il était particulièrement convaincu et au courant, il savait qu'il allait vers la mort. Ça, c'est clair.
Il allait vers la mort, il le savait. Avril 43, qu'est-ce qui se passe ?
Avril 43, il est emprisonné par la Gestapo pour démoralisation de l'armée. Hein ? C'est le chef d'accusation à ce moment-là. Et puis, alors là, il prend le temps d'avancer des arguments, et en particulier sur l'obéissance. Et il utilise un autre livre où il explique que le croyant ne peut être qu'obéissant. Je n'ai fait qu'obéir. Et donc, il désamorce par des arguments juridiques et en s'appuyant sur son livre « Vivant disciple », en disant ben, « Être disciple, c'est obéir à Dieu et obéir ». Alors, il rajoutait sans doute, j'imagine, à l'État, pour se dédouaner, mais en fait, c'est de l'habileté intellectuelle et spirituelle. Il a joué pleinement son rôle, c'est-à-dire essayons de faire en sorte que le procès n'ait aucun sens, quoi. Et puis bon, ça n'a pas réussi quand même.
J'ai lu qu'il a écrit en prison, donc quand il était à Berlin, « Même en prison, je suis libre parce que je suis entre les mains de Dieu ».
Oui, alors ça, c'est effectivement, me semble-t-il, une caractéristique de Bonhoeffer. Je pense aussi à un poème que je lirai ce soir, « Des puissances bienveillantes », où effectivement il dit « mais on se remet à Dieu ». alors même qu'il est à 4 mois de... C'est un poème qu'il a écrit en décembre 44 à sa famille. Et il sait bien qu'il est entre les mains de Dieu, mais en même temps qu'il va aller, pas au bûcher, mais au gibet.
Ça me fait penser à une chanson d'Aznavour qui s'appelle « Le mort-vivant », qui vaut la peine d'être écoutée, où il dit justement « Voilà, on est en train de me détruire complètement, mais je sais qui je suis. » Et il s'adresse à Dieu dans sa prison. Alors, il ne parlait pas de la guerre, parce que c'est une chanson qui a été faite après, mais... La deuxième chose que j'avais envie de dire, c'était que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de catholiques qui croient que Dietrich Bonhoeffer est catholique, catholique romain, parce qu'il a, tellement rassemblé la foi chrétienne que beaucoup, je suis sûr, enfin je sais que ce soir, par exemple, il y aura pas mal de prêtres, Monseigneur Mika sera présent aussi, il y aura des confrères diacres... C'est intéressant de voir qu'il a unifié en fait cette foi chrétienne, et je crois qu'il est c'est pour ça aussi qu'il est terriblement moderne, parce que bon ben l'œcuménisme on avance progressivement, on s'y fait, on a beaucoup d'amitié et on se chahute bien ici dans le diocèse, tant qu'on se chahute ça va. Mais en même temps, voilà, il faut toujours enfoncer le clou.
Il est emprisonné pendant 2 ans, c'est ça à peu près ?
Oui, il est emprisonné à partir d'avril 1943. Il est d'abord dans la prison de Berlin-Tegel, et puis il est transféré au siège de la Gestapo Wilhelmstrasse, si ma mémoire est bonne. En février 1945, il est déporté dans le camp de concentration de Buchenwald. Et en avril, il est déporté dans le camp de concentration de Flossenbürg. Et là, il est pendu donc, le 9 avril 1945.
Sur son décès, moi j'ai noté quelque chose qu'un médecin aurait dit en le voyant décédé. J'ai vu un homme mourir avec une foi si certaine et si paisible que cela m'a bouleversé.
Avec un petit bémol, je crois que ce médecin était un médecin de la SS. J'émets une hypothèse sans plus de renseignements, mais je pense qu'il essayait de se dédouaner lui-même.
Les dernières paroles d'Dietrich Bonhoeffer.
Je crois qu'il a dit quelque chose, maintenant je vais vers Dieu, ou quelque chose comme ça.
Donc on peut dire qu'il est mort pour son combat, et qu'aujourd'hui on peut s'en servir comme exemple d'action par amour du Christ.
Alors il est mort pour son combat, mais il est mort surtout pour... que ce regard porté sur l'humanité, sur la mission de l'Église, soit le plus large et le plus pur possible, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est dans ces circonstances-là qu'il a combattu, c'est clair. Hein, donc c'est contre le régime nazi, c'est clair aussi, mais c'est également pour quelque chose, pour cette conviction que l'Évangile vaut la peine d'être vécu, vaut la peine d'être mis en valeur, d'être compris le mieux possible, etc., etc. Et ça, je crois que c'est essentiel. On ne combat pas seulement contre, on combat aussi pour. Et Bonhoeffer a été remarquable à ce niveau-là.
Si je n'évangélise pas, en fait, comme dit saint Paul, je crois que c'est ça. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Et pour lui, évangéliser, c'était, en l'occurrence, dans cette situation-là, s'engager comme il l'a fait.
Je crois aussi qu'il aurait eu, semble-t-il, la possibilité de partir, mais il a choisi de rester avec les détenus et de donner sa vie.
Oui, et également parce qu'il était soutenu par des gardiens de prison qui étaient aussi pour la résistance. Et ça, je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'il n'était pas seulement avec des détenus, il était aussi avec des hommes qu'il avait reconnus comme partageant une partie de son combat, quoi. Et ça, je crois que c'est aussi un élément pour être fidèle dans la situation dans laquelle il était. Et ça me semble aussi intéressant. Et puis, bon, je crois qu'il y a aussi, il faut vraiment bien le dire, une théologie qui est derrière tout ça. Bonhoeffer est à la fois pasteur, à la fois résistant et à la fois théologien. Il nous aide également à mieux comprendre la foi chrétienne. Je disais pour la vie communautaire, bon, cette idée que la vie spirituelle peut nous aider à corriger une vie psychique un peu brinque-ballante. Même chose dans Création et Chute et dans Tentation, deux autres ouvrages, deux petits ouvrages, petit par le nombre de pages, il nous dit quelque chose d'essentiel sur et la chute et la tentation. Et si nous la vivons, comment dirais-je, en Christ, nous sommes vainqueurs. Et ça, c'est aussi une conviction qui est essentielle parce que, ben justement, ça va changer complètement la manière de combattre. Je combats parce que j'espère. Je combats parce que je crois en un royaume qui sera largement mieux que tout ce qu'on peut vivre dans la tragédie humaine. Quoi.
Voilà, c'est sur cette note d'espérance du ciel, puisque nous sommes tous attendus à y aller, que nous allons terminer cette interview. Merci beaucoup Gérard Crozat. Donc, je rappelle que vous êtes délégué à l'œcuménisme et que c'est dans le cadre de l'œcuménisme que Yves Noyer, vous nous avez fait la joie de venir. Merci Yves Noyer.
Merci aussi à vous.
Et merci Gérard.
Merci.